Je vous invite à prendre ce texte, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 17. Is it okay? What you doing? Ça c'est ce qu'on appelle une sortie. Hein? On rentre debout, on sort à genoux. Hein? Voilà. Voilà. Donc 1 Corinthiens 3, versets 10 à 17. Voilà. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, quand je priais par rapport à ce culte, c'est de nouveau l'image du fondement qui est venue très fort. Et je rappelle l'année passée ce qu'on a vécu avec le fondement de cette église, cette salle hein, qu'il a fallu consolider. Et je crois que nous sommes encore dans ce travail des fondements. Et là, ce texte nous interpelle par rapport au fait de bâtir sur le fondement. Nous démarrons une année où nous devrons bâtir. Dieu nous appelle à bâtir. Je vous rappelle au niveau de Caleb, au niveau de Josué, nous sommes dans une phase de choses concrètes maintenant. Nous sommes dans des plans, nous sommes dans les architectes, nous sommes dans des phases de préparation d'achat, nous sommes dans des phases d'expansion au niveau de ce mandat culturel que Dieu nous donne. Bref, c'est une année où bien sûr Dieu nous parle d'œuvres. Alors, ce ne sont pas nos œuvres, mais ce sont les siennes qu'on veut faire. Et je veux insister sur ce fondement ce matin et sur la façon de bâtir pour cette année. Et le fondement, donc il n'y en a pas un seul, c'est Jésus-Christ. On n'a pas à se triturer. À être vraiment perturbé par la qualité du fondement. La qualité du fondement, c'est Jésus. Donc ton fondement, si tu aimes le Seigneur, il est bon. Ton fondement, il est bon. Tu comprends? Il n'y a pas besoin de se dire, oh là là. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est vraiment cette pierre qui est solide et qui est vraiment le rocher. Mais la façon de bâtir, on va en parler, dire quelques mots, est très importante. Et notre façon de bâtir cette année va être déterminante. On ne veut pas perdre notre temps sur des choses qui vont être appelées à se consumer dans un an, 2 ans ou 10 ans. On a d'autres choses à faire sinon. Hein. Donc les choses importantes, on veut que ça dure. Et on veut que ça dure parce qu'on veut faire l'œuvre de Dieu et pas quelque chose à côté. Donc ce texte est vraiment important par rapport à ça. Le contexte ici de ce texte, c'est que Jésus revient pour récompenser les siens. Et alors, dans ces récompenses, la motivation de Paul, c'est vraiment que le Seigneur lui dise un jour, bon et fidèle serviteur. Vous savez qu'un jour, on se retrouvera seul avec le Seigneur. Et il est dit, Jésus nous a dit, il va nous parler, il va dire à certains, et on espère à tous, il nous aime tous, mais à certains, il va dire bon et fidèle serviteur. L'amour de Dieu pour tous, mais la récompense, pas pour tous. Et ça, c'est vraiment ce que la parole nous dit. Et dans Philippiens 3, verset 13-14, il est dit, c'est Paul qui parle, le grand apôtre Paul, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Dieu Jésus-Christ. Nous sommes ici en tant qu'Église dans une course. Alors ce n'est pas une course avec nos propres efforts, ce n'est pas une course avec nos propres ressources, mais c'est une course quand même, c'est une course quand même, voyez. Mais ce n'est pas la même course que partout ailleurs dans le monde. Et l'apôtre Paul, il courait vers ce qui est en avant. Il y a peut-être des choses que tu regardes aujourd'hui qui sont en arrière. Et Seigneur, il te dit vraiment, regarde en avant maintenant. Je sais, Rusty et Janet nous ont parlé beaucoup de la destinée, du rêve qui est dans nos cœurs, que Dieu met dans nos cœurs. Et le Seigneur dit, mais regarde en avant maintenant. En cette nouvelle année, les choses anciennes, laisse-les. Décharge-toi sur Dieu, sur tout ce qui peut te peser, pour te laisser vraiment lancer par le Seigneur dans la vocation céleste. Vous savez, il n'y a qu'un seul bonheur qui existe, c'est de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. La recherche des hommes, c'est de chercher le bonheur, et le cherche parfois à côté. Mais on le trouve quand on a trouvé ce que Dieu a pour nous. Et quand ce qu'il a pour nous, de façon collective et pas seulement individuelle. Le bonheur individuel n'existe pas, c'est non consistant, parce que le bonheur avec Dieu, c'est rentrer dans la destinée, et la destinée de chacun, c'est la destinée qui est liée avec le corps de Christ. C'est la destinée de Jésus lui-même sur cette terre. Et la destinée de Dieu, c'est il est vainqueur, il a tout remporté, et le royaume de Dieu est en train de venir de plus en plus s'établir. Daniel, il a vu la vision d'une petite pierre qui était lancée, et que cette petite pierre est devenue une montagne, qui est devenue un royaume, et qui est allée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la vision que nous avons. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont une autre vision. On connaît, ils discutaient, ils ont la vision du peuple de Dieu qui va se rabougrir, et qui va devenir tellement petit et misérable, qu'au dernier moment, alors qu'il lance les SOS, Dieu arrive. Mais ce n'est pas ça que Dieu va chercher comme église. Il va chercher une église qui est glorieuse, une église qui a mis les ennemis sous les pieds. Je vous rappelle au temps des rois dans l'Ancien Testament, lorsqu'un roi était vainqueur, il montait sur son trône, comment ? En passant sur la nuque des rois qui étaient vaincus. Et alors l'escalier, c'était un escalier vivant. C'était un escalier fait de rois vaincus. Et il montait sur le cou des rois et il arrivait à son trône. Et le Seigneur nous dit à son église, il lui dit, eh bien tu vas, l'ennemi est sous tes pieds, c'est à toi, c'est toi les pieds. L'église, c'est les pieds de Jésus. Et les pieds de Jésus, c'est pour fouler les œuvres des ténèbres, afin de préparer la venue du Seigneur. Parce que le Seigneur reviendra quand l'ennemi est défait et sous les pieds de sa princesse. Et ça, c'est la vision que nous avons. Donc, dans cette vision-là, nous œuvrons, et on a, avec cette humilité de Paul, il ne pense pas avoir saisi tout du Seigneur, mais il court. Et vous savez, la motivation de Paul, Paul est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais la motivation, c'était quoi? C'était, 2 Corinthiens 5,9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. On veut être agréable. Alors là, j'ai quelques illustrations, j'en prends une au hasard. Mais par exemple, avant que Yekaterina vienne en France, tout d'un coup, je vois mon Raphaël qui nettoie sa voiture. Bon, c'était pas la première fois quand même, mais quand même, il a mis un zèle à nettoyer cette voiture. J'étais étonné. Et tout d'un coup, je dis, ben oui, je comprends. Il prépare le terrain. Eh bien, de la même façon, le mandat de l'Église, c'est de préparer le terrain. C'est de doter les pierres de ce chemin, de laisser le roi de gloire venir. C'est le terrain de nos cœurs et c'est le terrain de ce pays. Et parce que nous aimons notre roi, c'est l'amour qui fait ça. C'est pas qu'on veut, c'est pas des œuvres pour faire plaisir, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse. Dans 2 Corinthiens 5,14, l'amour de Christ nous presse. Il nous presse. Et moi, ma prière, c'est que cette année, dans les immensités de choses qui sont à faire, eh bien, vraiment que ce ne soit pas le faire qui nous presse, mais l'amour de Christ qui nous presse. Et hier soir, on discutait avec Géraldine par rapport au groupe de jeunes, et puis on est tombé vraiment d'accord sur le fait de se dire, on ne veut pas faire des programmes. Et d'ailleurs, on va vous donner l'annonce plus tard, mais on va se mettre devant Dieu, avec les jeunes qui le veulent, et on va dire, Seigneur, c'est quoi ton programme à toi? C'est quoi ton programme à toi cette année? Et je crois que ça, c'est une démarche qu'on veut faire aussi par rapport aux enfants et par rapport à tout. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? Mais la motivation, c'est l'amour de Christ nous presse. Alors, le contexte, c'est Jésus qui va revenir et qui va consumer. Consumer, c'est pas pour le mauvais, c'est pour faire ressortir ce qui est éternel. 1 Corinthiens 9, versets 24-27, « Nous les croyants, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, où chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Vous savez, il n'y a pas seulement... Dieu a déjà jugé le péché. aucun de nous ne seront condamnés. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il y a un tribunal quand même devant lequel nous passerons. Ce n'est pas un tribunal contre le péché, mais c'est les œuvres qui passent dans ce feu. Et puis Dieu parle de récompense. Il y a des choses étonnantes. Hein. Et il parle ici de l'image du bâtisseur. Et il dit que Paul est un sage architecte. Alors là, on est en plein dans le sujet aujourd'hui. On parle d'architecte, on parle de ce bâtiment, on va avoir besoin de tout ça. Et il dit qu'il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et nous sommes, tu es un architecte. Nous sommes tous en train de construire. Maintenant, comment est-ce qu'on construit ? Sa vie de couple, sa vie de famille, sa vie d'église, dans son travail. On bâtit tous les jours. Et on bâtit comment ? Et là, c'est l'interpellation de cette parole. Donc, l'appel de Dieu pour Paul, c'était d'être un sage architecte. Et il disait dans d'autres passages ceci, « Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite pour moi. » Il avait conscience que Christ faisait tout pour lui. Il était tout pour lui. Il n'y avait rien qui... Il ne pouvait pas se glorifier de quelque chose. Donc cette conscience que tout don parfait vient du Père était un des fondements dans cette vie de Paul. Et 1 Corinthiens 15, regardez cette belle parole qu'on a chantée tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alors il continue. C'est pourquoi j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Remarquez-le, c'est pourquoi. La grâce de Dieu, elle est sur moi, c'est pourquoi je travaille. Plus il y a de grâce, plus il y a d'engagement. Et ce n'est pas avec nos forces, encore une fois. Mais ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé, parce qu'il y a de la grâce, que ça bouillonne. Rappelez-vous le psaume 45 qui dit « La parole bouillonne en moi, Seigneur, tu es mon roi ». Cette parole, quand elle bouillonne dans nos cœurs, il y a des rêves qui viennent. Et quand il y a des rêves qui viennent, eh bien, il y a des stratégies qui viennent. Et quand il y a des stratégies qui viennent, il y a du travail qui vient. Mais ce n'est pas tout seul. Ce n'est pas tout seul. Alors, voyez cette phrase extraordinaire. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Il était certain de qui il était. Hein, on a chanté tout à l'heure, « Je suis un héritier, je suis un enfant de Dieu. » Est-ce qu'on est certain de cela ? Tout à l'heure, on a prié pour les enseignants. J'aimerais dire que, bien évidemment, ce n'est pas seulement les enseignants. Il y en a ici qui sont dans l'insécurité par rapport à un travail, qui ne savent pas par rapport à leur avenir, etc. Il est bien évident qu'on porte tout le monde. On a prié pour eux particulièrement ce matin, mais ce n'est pas au détriment de tous les autres, bien entendu. On est tous appelés à être le sel en tant que là où nous sommes, sur notre lieu de travail. Vous savez, Paul, il fabriquait des tentes. Moi, toujours, je me dis, mais quelqu'un qui a une telle onction, il prie pour les malades, ils sont guéris, etc., il passait ses journées, dans plusieurs années de son ministère, à fabriquer des tentes. Il avait les pieds sur la terre et il travaillait pour l'œuvre de Dieu dans le ciel. Il y a une intégration entre le royaume de Dieu et le royaume de la... et tout ce qui est terrestre, quoi, qui est assez fabuleuse. Ce n'était pas un disjoncté de la vie. Ce n'était pas un chrétien flaï, hein, comme ils appellent les Québécois. Et les chrétiens flaï, c'est les chrétiens qui sont alléluia, alléluia. Et puis, dans les choses concrètes, il n'y a plus rien. Et nous devons vivre cette tension entre la terre et le ciel. Et là, Paul est un exemple extraordinaire de cette tension qu'il a su bien vivre. Alors, il a été envoyé à Corinthe. Il avait la bonne motivation. Il avait le bon message. Il avait la puissance adéquate pour cela. Parfois, on a le bon message, mais on n'a pas la puissance. Parfois, on a la puissance, mais on n'a pas la bonne motivation. Et le Seigneur nous dit, voilà, pour construire avec de l'or, il nous faut la bonne motivation, il nous faut le bon message, la bonne vision, et il nous faut la puissance, l'onction adéquate que Dieu a pour nous. Alors Paul, il a posé les fondements, il a enseigné parfois pendant 2 ans, mais c'est d'autres après qui venaient. Par exemple, à Corinthe, on a Apollos, et à Éphèse, on a Timothée. Il ne faisait pas tout seul. Mais il était préoccupé par la façon dont ceux qui le suivaient allaient bâtir. Et là, c'est cette préoccupation qui dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, le fondement, ce n'est pas Paul qui l'a reçu. C'est Paul qui l'a... Il n'a fait que le poser. Le fondement, c'est Jésus. Ce n'est pas lui qui a dû inventer le fondement. Mais il a posé ce fondement. Et dans nos vies, on est appelé à poser, à être sûr de ce fondement. Je dis, il y en a parfois qui posent le fondement par rapport à leur histoire à eux. Le fondement, c'est leur histoire, c'est leur expérience. Ce n'est pas le bon fondement, ça. Ce n'est pas le bon fondement. Peut-être il y en a qui veulent bâtir des choses avec encore comme fondement leur vie à eux, avec leurs blessures, leurs amertumes, leurs échecs. Et tout ça, ça, ils veulent bâtir avec ça. On ne peut pas bâtir avec ça. On bâtit sur un seul fondement, c'est le Seigneur Jésus. Il y en a qui bâtissent sur des philosophies bizarres. On ne peut pas bâtir avec des philosophies bizarres. Il y en a qui bâtissent sur des idées, on veut bâtir sur la parole. Et vous savez, tout dans cette parole nous parle de Jésus. L'Ancien Testament, il nous annonce l'incarnation de Jésus. Les évangiles nous racontent l'histoire de Jésus. Les actes, l'histoire de Jésus au travers de son Église. Les épîtres, les commentaires sur l'œuvre de Jésus. L'Apocalypse, comment Jésus viendra régner, etc. Tout est avec le Christ. Bâtir avec Dieu, c'est pas seulement bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, mais c'est bâtir avec le Christ au centre. Vous voyez, c'est ça, bâtir avec de l'or. Le Christ qui reste le centre dans notre vie. Et j'avais parlé aux enseignants à la rentrée, bâtir sur Jésus. Comment tu bâtis sur Jésus? Alors, je fais juste un petit rappel. L'ennemi nous dit, tu es un pécheur parce que tu commets le péché de temps en temps. Et Dieu nous dit, tu es saint parce que tu es justifié, même si de temps en temps tu pèches encore. C'est quand même pas pareil. Donc, on veut bâtir sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit que tu es saint. Ensuite, ton identité, elle n'est pas dans ce que tu accomplis. Cette année, ça va être une année où il y a beaucoup d'œuvres. Mais ton identité, elle ne sera surtout pas dans ce que tu fais. Ça ne tient pas sinon. Tu peux travailler des heures et mettre ton identité là-dedans. Lorsque Jésus vient, ça ne compte rien. Parce que Dieu dit, ton identité, c'est ce que Dieu a accompli pour toi. Et je vous rappelle ce grand verset qu'on a pu souvent partager, 1 Corinthiens 1:30. Jésus-Christ a été fait pour toi. Sagesse, justice, rédemption, sanctification. Pour toi, il a été fait. D'ailleurs, il y a des faux messages qui nous disent il faut que tu t'efforces d'être saint. Et Dieu dit tu es saint. Et le processus de sanctification, c'est le Christ qui le fait en toi. C'est cette relation avec Dieu. Donc voilà, bâtir sur ce fondement, c'est bâtir avec le Seigneur au centre. Alors, juste, on revient à Paul. Après qu'il ait guéri le boiteux au temple, il se fait emprisonner. Et là, il parle d'un message extraordinaire. Il parle aux Juifs, il dit, mais vous avez rejeté celui qui est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, le fondement. Et puis, il leur a reproché cela. Le fondement même du royaume, c'est cette personne de Jésus. La parabole de Jésus, bâtir sur le sable, bâtir sur le roc, il s'adressait en particulier à ceux qui avaient l'impression de bâtir avec leur tradition, la tradition des hommes. Il disait, mais voyez, ça c'est du sable. Je sais qu'il y a un orateur qui est passé ici, qui a parlé de choses nouvelles, M. Stanfield, là, j'avais écouté, il disait, voilà, il faut faire les choses nouvelles. Un vieux cantique peut être un cantique nouveau quand tu le chantes avec tout ton cœur. Tu peux être assis sur une chaise et faire un culte nouveau pour Dieu. Tu peux être dans une culte sans chaise et faire un culte de tradition des hommes pour Dieu. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est nouveau pour le Seigneur? Qu'est-ce que c'est un culte nouveau? Qu'est-ce que c'est une onction fraîche? C'est de toujours, eh bien, marcher avec le Seigneur, être renouvelé en lui et recevoir de lui. Comme fondement, je ne peux pas m'empêcher, en ce début d'année scolaire, de faire parler un homme dont le cri a retenti au XVIe siècle en Allemagne. C'était Luther. Et voilà un des fondements qu'il a posé pour l'Europe. Et il disait ceci, instruisez le peuple et surtout prenez à cœur son développement spirituel. Créez un peuple chrétien. Pénétrez-le de l'esprit de l'évangile. C'est là seulement qu'est pour la nation l'encre du salut. Je ne conseille à personne de placer son enfant là où les saintes écritures ne sont pas souveraines. Je crois bien que ces écoles ne démontrent quelles sont les larges portes de l'enfer, à moins qu'elle ne s'efforce diligemment d'expliquer les saintes écritures et de les graver dans le cœur des jeunes. Toute institution dans laquelle les hommes ne sont pas continuellement préoccupés de la parole de Dieu est voué à la corruption. La réforme, elle est venue avec cette passion d'un seul fondement, Jésus-Christ, pour toutes les institutions. Pour toutes les institutions. Et ça, c'était une réforme. Et Dieu est en train de nous interpeller. Parce que beaucoup pensent que le fondement, c'est Jésus pour l'Église. Mais le fondement, c'est Jésus pour le domaine, tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Et c'est pourquoi Luther, il proclamait comme ça devant les princes d'Allemagne, toute institution qui n'est pas préoccupée de la parole de Dieu est vouée à la corruption. Et la corruption, elle fait son œuvre, mais elle fait ressortir ce qui est inébranlable. Elle fait sortir ce qui est éternel. Et plus loin, il disait, tout ce qui ne pratique pas sans cesse l'étude de l'Écriture est voué à la perdition. Etc. Voilà. Cette notion de Christ, parole de Dieu, fondement pour notre vie, pour l'Église et pour les nations. Ça, c'est le fondement. Hein. Ça, c'est le fondement. Alors, les matériaux, hein, lorsqu'il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des foin, du bois, du chaume, deux catégories de matériaux, une qui brûle, une qui ne brûle pas. Et j'aimerais juste donner un peu une explication, je pense, de cela. Les matériaux, ça ne représente pas la richesse. Ça ne représente pas les talents que Dieu t'a donnés. Ça ne représente pas les dons spirituels qui sont parfaits, que le Seigneur donne à chaque croyant. Mais ces matériaux, ça représente ce que les croyants ont fait avec ce qui est à leur disposition, la fidélité avec laquelle ils ont utilisé ce qui leur a été donné. En d'autres termes, ils représentent nos œuvres, notre réponse à Dieu. Notre réponse à Dieu. Vous voyez, c'est ça ce que c'est l'or, l'argent, notre réponse. Quelle est ta réponse à l'amour de Dieu? Quelle est ta réponse à l'amour de Dieu? Eh bien, ça, c'est ton œuvre. Ça, c'est ton œuvre. C'est une réponse d'amour. Les œuvres, ce n'est pas la source de ma vie chrétienne, mais les œuvres, c'est la marque de la vie chrétienne. Alors, on va beaucoup parler cette année de justice encore. Ça, c'est le fondement. La justice, la grâce, l'amour de Dieu, c'est le fondement. Mais ensuite, je veux bâtir dessus. Et ça, c'est l'œuvre. Et l'œuvre, elle ne sauve pas, mais l'œuvre, elle est la conséquence de la relation avec Dieu et de la reconnaissance. Voyez, alors, dans l'épître de Jacques, il est dit, pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement. Jacques 2,18, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Voilà un petit peu les conseils de Jacques. Alors, juste trois points par rapport à l'or et l'argent. Eh bien, quelque chose s'est fait avec de l'or quand la motivation, elle est juste. Vous voyez, la motivation. Et ça, personne, moi-même, les anciens, personne peut discerner la réelle motivation. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc, vraiment, ce n'est pas notre job de discerner la motivation des gens. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Mais c'est la motivation qui fait que c'est de l'or ou de la paille. C'est la motivation du cœur. Alors attention, c'est le moindre besoin de reconnaissance, on en a tous un peu quelque part, il faut bien l'avouer. Mais quand c'est ça qui va dominer, attention, attention, danger. Si c'est combler des manques, etc. Bref, attention à la motivation. Et cette motivation, on la purifie à l'autel du Seigneur, devant lui. Et je crois qu'en ce début d'année, comme Josué devant Jéricho, avant de passer le Jourdain, Dieu dit, voilà, circoncisez vos cœurs. Et je crois que c'est que le Yom Kippour chez les Juifs, chaque année, c'était ça. C'était, Seigneur, on vient devant toi. On a besoin de toi. Pardon pour nos péchés. Et c'est ce Yom Kippour qui fait que bien Dieu peut travailler dans ce cadre d'humilité. Voilà, alors les œuvres, attention. Ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin de faire des occupations, mais on a besoin de faire ce que Dieu nous demande. Dans 2 Timothée 2, verset 20 à 11, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, les motifs, les motivations. Ensuite, l'histoire de la conduite. Dans 2 Corinthiens 5, 10, écoutez ça. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, éteint dans son corps. Le mal ici, ça veut dire, le terme c'est folo, ça veut dire inutile. C'est-à-dire, on peut faire des choses inutiles. Alors, c'est pas vraiment mal, mais c'est inutile. Ça ne sert pas, ça ne va pas durer. C'est pas mal, mais ça va pas durer. Et voyez, on veut bâtir autrement que cela. Et puis, ce qui est avec de l'or, c'est le cœur, la motivation, mais c'est le cœur de serviteur. Le cœur de serviteur. Et ça, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes là et pour le cœur de serviteur que je sens chez la plupart d'entre vous, sinon tous, quand je vois ce qui s'est passé hier à la vente de vêtements, quand je vois les travaux, quand je vois l'engagement au collège, il y a un cœur de serviteur. Et ce cœur-là, c'est le cœur qui est la porte qui s'ouvre vers une réelle autorité. Le Seigneur, pourquoi il a été élevé ? Parce qu'il s'est abaissé. Le chemin de l'élévation d'une église, c'est le chemin du service et de se faire petit. Et c'est Dieu qui nous élève. Être enseignant, c'est être petit. Revenir tous les jours dans la salle de classe, recommencer, redire les mêmes choses. Ça, c'est pas évident. Hein. Eh bien, Dieu élève ceux qui s'abaissent. Et le chemin a été ouvert par son Fils. L'épreuve du feu, donc elle va révéler ce qu'élève de chacun. Prions pour que ce feu soit pas seulement au dernier jour, mais qu'il soit presque quotidiennement, de façon à ce que, eh bien, on puisse être régulièrement dans le feu de sa présence. Et dans le feu de sa présence, eh bien, je peux vous assurer que les choses sont consumées. On n'a pas besoin de nous dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a un feu qui vient. Et je prie que ce lieu, cette église, comme ce matin, ça soit un feu qui soit entretenu. Et vous savez, cet été, il y a Rusty, plusieurs d'entre vous aussi, tous les matins, ici, au caveau, de 9h à midi, il y a un feu qui a été entretenu. Et le feu, c'est la louange. Et je rappellerai que dans ce thème du fondement, dans ce thème de comment bâtir, je rappelle la grande trilogie. Dans Esdras, Dieu lui dit, rebâtis le temple. Et il a commencé par l'autel. Et l'autel, je vous rappelle, l'autel, cet autel qui a été présent dans ce lieu pendant tout cet été et qu'on veut continuer à entretenir, c'est la présence de Dieu. C'est la louange et c'est l'adoration. Et c'est un feu. Ça amène un feu. Ça amène une présence de Dieu. Et il faut rien faire tant qu'il n'y a pas le feu et la présence de Dieu. Sinon, on va se perdre. Hein. Donc ça, on veut l'entretenir. Et ensuite, Dieu lui dit à Esdras, maintenant, il faut bâtir le temple. Et alors, il a mis les fondements. Il y a eu des intimidations. Il a bâti le temple. Et il y a une grande fête. Et vous relisez Esdras et Néhémie, c'est toujours dans l'adoration. Ils ont bâti l'autel, ça a été la fête, c'était les sacrifices, les holocaustes, l'adoration. Et ils bâtissent le temple, on continue l'adoration. Et ensuite, un ennemi qui vient, et ça nous parle de la cité, ça nous parle de la culture, ça nous parle de notre mandat pour cette ville. Et bien, un ennemi qui pleure sur les murailles qui ne sont pas là, qui ont été détruites, les portes consumées par le feu. Et un ennemi dit, voilà maintenant, on va rebâtir les murailles. Mais il n'y a pas de murailles sans autel. D'accord ? Donc c'est d'abord l'autel. Ensuite, c'est le temple, c'est la vie du corps, c'est la vie de l'Église. Il n'y a rien qui peut durer en dehors du mandat de Christ qu'il confie à son Église grande E. Il n'y a rien. Et au travers de cela, il y a les murs qui ont été bâtis. Et quand les murs ont été là, alors il y a eu du vin dans la maison, il y a eu du pain en abondance et les sacrificateurs ont été de nouveau dans la joie. Voilà, je termine en disant, en ce début d'année, je vois vraiment beaucoup de choses au niveau des œuvres, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et ne faisons rien si on n'est pas sûr que c'est la motivation, que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est avec les forces que Dieu nous donne. L'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et les récompenses dans le Nouveau Testament, ce sont des couronnes. Par exemple, la couronne de la justice, il est dit, ceux qui vivent fidèlement dans la foi, dans l'espérance, ils auront une couronne de justice. Ensuite, il est dit que 1 Thessaloniciens 2, ceux qui sont fidèles, qui proclament la vérité, ça je parle aux enseignants, ils ont la couronne de gloire et de joie. Il y a une promesse pour ceux qui proclament la vérité. Et la promesse, c'est la joie et c'est la gloire. Et ça, nous sommes tous, chrétiens, appelés à proclamer la vérité, à être, à incarner cette vérité. Mais il y a cette promesse particulière que je vous laisse ce matin. Il y a une couronne de gloire et de joie. 1 Thessaloniciens 2, 19-20. Et ceux qui ont servi les rachetés, la couronne de la vie, se servir les uns les autres. Voilà un petit peu notre mandat cette année. Alors que Dieu nous aide cette année à ne rien bâtir en dehors de ce fondement, au niveau éducation, au niveau de notre relation, nos relations intérieures, etc. Et que Dieu nous aide à bâtir avec de l'or, quelque chose qui va durer. Parce que de toute façon, les choses vont brûler, le feu va passer. Et on parlait tout à l'heure de guérison. Il y a cette grippe A, machin qui vient. Je peux vous dire que si on croit vraiment, si on s'appuie vraiment, ça va vite. Les choses vont se voir. Est-ce qu'on est vraiment appuyé sur le Seigneur et sa parole? Ou est-ce qu'on commence à être intimidé par toutes les vagues d'intimidation qui veulent venir nous toucher, par des manifestations qui veulent nous ébranler? Mais le Seigneur, il va au contraire utiliser tout ça pour nous affermir, n'est-ce pas? Donc voilà, Seigneur, merci parce que tu es notre or, tu es notre argent, tu es notre pierre précieuse, Seigneur. Et comme le marchand, il a vu la pierre précieuse et il a vendu tout ce qu'il avait pour l'avoir parce qu'il voulait bâtir avec. Seigneur, nous voulons dire, nous voici, tu es notre pierre précieuse. Et dans tout ce que nous faisons en tant qu'Église cette année, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, Seigneur, nous voulons bâtir avec de l'or. Seigneur, voici nos vies, voici toi qui es le Christ comme fondement de nos vies. Nous ne voulons pas bâtir sur nos expériences, sur notre histoire, sur tout ce qu'on peut croire de par nous-mêmes. Nous voulons dire, Seigneur, sois le centre cette année, encore une fois, par ta grâce. Et comme l'apôtre Paul, qu'on puisse dire, on court vers le but, Seigneur. On court parce qu'on a vu quelque chose. On a vu cette terre de France touchée par toi. On a vu cette génération se lever pour toi. On a vu ton Église glorieuse se lever. Et parce qu'on a vu tout ça, Seigneur, nous disons, nous voici. Nous voici nos mains, voici nos cœurs, voici nos cœurs tout entiers, nos volontés. Et nous disons, prends tout, Seigneur, cette année, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous encourage, vous bénisse ce dimanche. Et on se retrouve, il n'y a rien de particulier la semaine qui vient, on se retrouve dimanche prochain tous ensemble. Donc je vous rappelle, dimanche prochain, on va prier pour nos jeunes qui vont partir. Donc priez aussi avant dans la semaine pour cela, peut-être on va avoir des choses pour eux. Et je pense que ça serait bien d'avoir une petite offrande aussi pour eux, pourquoi pas. On va voir. Bon dimanche à chacun.